bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose, à chaque épisode, de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast vous est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 22, le célibat sacerdotal. Alors nous en arrivons à notre dernier épisode sur le thème du sacrement de l'ordre. Pour les... Ce sont donc les questions 331 à 336 de ce compendium du catéchisme de l'Église catholique. Comment se célèbre le sacrement de l'ordre? Pour chacun des trois degrés, donc je vous rappelle l'épiscopat, le sacerdoce et le diaconat, pour chacun des trois degrés, le sacrement de l'ordre est conféré par l'imposition des mains sur la tête de l'ordinant par l'évêque, qui prononce la prière consécratoire solennelle. Par cette prière, l'évêque prie Dieu d'envoyer sur l'ordinant une effusion spéciale de l'Esprit-Saint et de ses dons en vue du ministère. Donc voilà ce qu'est ce qu'on appelle la matière et la forme du sacrement de l'ordre. Donc la matière, c'est l'imposition des mains. Vous voyez, comme dans le baptême, la matière, c'est l'eau, et la forme, c'est la formule prononcée par le prêtre. Ici, la matière, c'est l'imposition des mains, donc c'est ça qui fait la validité de l'ordination. Et puis, la prière consécratoire, solennelle, qui est soit récitée, soit chantée, en fonction de l'ordre, par l'évêque. Et c'est évidemment une effusion spéciale de l'Esprit-Saint et de ses dons qui va constituer dans l'âme du candidat, qui va marquer l'âme de la personne qui reçoit l'ordre et qui va en faire un évêque, un prêtre ou un diacre, donc selon ces trois degrés du sacerdoce. Question suivante, qui peut conférer le sacrement? Il appartient aux évêques validement ordonnés, en tant que successeurs des apôtres, de conférer les trois degrés du sacrement de l'ordre. Voilà, seul un évêque peut conférer validement le sacrement de l'ordre. Donc évidemment, un prêtre ne pourrait pas validement ordonner une autre personne. Et donc voilà, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des évêques pour faire des prêtres. Et c'est ça qui relie évidemment le prêtre à l'Église du Christ, donc aux apôtres, puisque les évêques eux-mêmes, comme on l'avait dit la fois précédente, sont les successeurs des apôtres. Qui peut recevoir le sacrement de l'ordre? C'est la question 333. Ne peut recevoir validement le sacrement de l'ordre qu'un baptisé de sexe masculin. L'Église se reconnaît liée par ce choix fait par le Seigneur lui-même. Personne ne peut exiger de recevoir le sacrement de l'ordre, mais il revient à l'autorité de l'Église de considérer l'aptitude des candidats. Alors, voilà ici, on peut commenter, en entrant dans une controverse, évidemment, la question du sacerdoce féminin. Voilà. Est-ce qu'il est possible dans l'Église que des femmes soient ordonnées prêtres? Eh bien, la réponse est non. L'Église se reconnaît liée par ce choix fait par le Seigneur lui-même. Le Christ lui-même n'a choisi que des hommes pour être prêtre. C'est étonnant, mais enfin c'est remarquable dans le sens où le Christ n'a choisi que des hommes pour être prêtre, mais pourtant il avait des femmes autour de lui et il a choisi des femmes pour d'autres missions. En particulier sainte Marie Madeleine, on l'appelle l'apôtre des apôtres, puisque c'est elle qui a annoncé la résurrection aux apôtres. Donc elle avait une relation tout à fait privilégiée avec le Seigneur. Marthe et Marie, bien sûr, les sœurs de Lazare, ont une relation tout à fait privilégiée avec le Seigneur. Sans parler de la Sainte Vierge, évidemment, et puis des saintes femmes qui sont toujours mentionnées comme accompagnant le Christ fidèlement. Donc, évidemment, s'il est la peine de le répéter, le Christ n'a absolument aucune considération inférieure ou qu'aucun mépris, encore moins de mépris pour les femmes. Au contraire, on peut même dire que dans le contexte de son époque, le Christ est tout à fait manifeste, l'égale dignité entre les hommes et les femmes. Néanmoins, et ça c'est un choix du Christ lui-même, devant lequel tout homme chrétien, tout chrétien intelligent doit s'incliner, le Christ n'a choisi que des hommes pour être prêtre, pour cet office de prêtre. Alors on peut poser la question pourquoi. Il y a plusieurs motifs. Le premier motif, c'est la ressemblance avec le Christ. La ressemblance avec le Christ. Alors certains diraient, j'ai vu un tas d'argumentaires les plus absurdes les uns que les autres, en disant, c'est pas parce que le Christ avait les yeux bleus qu'il y a que les personnes qui ont les yeux bleus qui peuvent être choisies. Mais de fait, le Christ n'a pas choisi que des personnes aux yeux bleus. C'est parce que le Christ avait les cheveux longs que tous les prêtres doivent avoir les cheveux longs. De fait, nulle part il n'est mentionné dans la Sainte Écriture, dans la tradition chrétienne, cette question de longueur de cheveux. Heureusement pour moi. De fait, dans l'Écriture et dans la tradition, ce ne sont que des hommes qui sont choisis. Alors, parce que cette distinction entre hommes et femmes est une distinction tout à fait fondamentale dans la création, voulue par Dieu. Je vous rappelle, on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs au moment pour le prochain sacrement qu'on va étudier, le mariage. Mais évidemment, Dieu crée l'homme, homme et femme, il les créa. Dans le récit de la création, la première distinction au moment de la création de l'homme, c'est homme et femme, il les créa. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la couleur des cheveux ou la couleur des yeux ou la taille ou la couleur de la peau qui sont des déterminations qui sont advenues par la suite au fur et à mesure des siècles et qui ne sont pas fondamentales dans l'humanité. Oui, dans l'humanité, il y a cette distinction fondamentale entre homme et femme. Alors, et donc le Christ n'a choisi que des hommes pour être prêtre. Il faut aussi, bien sûr, il faut, je pense, oser aujourd'hui, parce que ça devient dangereux de dire ce genre de choses, mais affirmer que, parce que, oui, si hommes et femmes sont distincts, c'est parce qu'ils ont des qualités distinctes, des talents distincts. Alors, évidemment, de façon générale, il y a des femmes qui ont des caractères plus masculins et des hommes qui ont des caractères plus féminins. J'en suis tout à fait conscient. Ça, c'est souvent une richesse d'ailleurs, tant que c'est pas trop exagéré. Mais ça se fait un caractère très complet. Mais de fait, l'homme a un certain appétit pour la force, pour la direction et la prise de responsabilité, ce qui ne veut pas dire que les femmes n'ont pas ça comme qualité, hein, il ne faut pas exagérer. Ne peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit. Et les femmes ont une vision plus fondée sur les émotions, ce qui est tout à fait une richesse, parce qu'un homme qui n'a pas d'émotion, ça peut être une brute épaisse, voilà. Les femmes qui sont des brutes épaisses, c'est plus rare, heureusement. Voilà, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes qualités et ils n'ont pas les mêmes défauts. Donc, voilà, on peut dire que, en tout cas, c'est un choix du Christ lui-même, devant lequel l'Église se reconnaît liée. Je trouve que la formule est tout à fait intéressante. D'ailleurs, il y a une encyclique du pape Jean-Paul II qui tranche cette question et qui explique que jamais les femmes ne pourront devenir prêtres dans l'Église. Et on considère, d'ailleurs, classiquement, que c'est un texte qui pourrait revêtir l'infaillibilité, les caractères de l'infaillibilité, puisqu'il y a la volonté d'obliger. Il y a une imposition du pape qui dit que dans toute l'Église, l'Église universelle, il en est ainsi, le pape Jean-Paul II use de son autorité de pape pour dire qu'il en sera toujours ainsi. Alors, sur cette question de l'infaillibilité, on en avait parlé quand on a parlé de l'infaillibilité du pape, mais je pense qu'il y a un argument un peu dans le sens contraire aussi qui dit que s'il n'est pas évident que ce texte est infaillible, alors il ne peut pas revendiquer l'infaillibilité. Mais bon, en tout cas, c'est très fort comme affirmation et comme justification, et donc aucun catholique ne peut remettre ça en cause. Et si, parmi les auditeurs, certains ne comprennent pas les arguments, je vous invite à creuser cette question et à lire le texte de Jean-Paul II, sur cette question et à accepter l'enseignement de l'Église. Voilà. Par ailleurs, et d'ailleurs c'est la conséquence logique, ou la généralisation de ce qu'on vient de dire, personne ne peut exiger de recevoir le sacrement de l'ordre. Ça n'a aucun sens quand on entend des espèces de féministes. Il y a une théologienne qui se prend pour une... ou peut-être, je sais pas, une féministe qui se prend pour une théologienne, une certaine Madame Soupa, qui avait, bon, je pense que c'était plutôt pour plaisanter, mais qui disait qu'elle était volontaire pour devenir évêque ou pape. C'est une mentalité qui est tout à fait éloignée du catholicisme, de la foi en l'Église. On peut pas revendiquer des choses en disant l'Église doit changer parce que moi, je veux ceci. Voilà. L'Église s'est trompée pendant 2000 ans et moi je vais faire changer l'Église. C'est tout à fait protestant, c'est l'attitude de Luther, c'est qui a détruit le christianisme en Europe, enfin qui a été la cause de la destruction du christianisme en Europe, la racine, disons. Pas lui seul, hein. Il y a beaucoup d'autres. Mais c'est donc une attitude, je pense, vraiment un orgueil démesuré que de vouloir imposer ses choix personnels. Là, je parle du cas de cette femme théologienne, mais un homme qui exigerait de recevoir le sacrement de l'ordre, ce serait le même orgueil. Donc, c'est évidemment pas lié à ce cas particulier, mais personne ne peut exiger de recevoir le sacrement de l'ordre. C'est ça qu'on appelle la vocation. Alors, il y a toujours cette discussion sur la vocation. Est-ce que la vocation, c'est un appel intérieur de Dieu, ou est-ce que la vocation, c'est l'appel extérieur officiel de l'Église? Eh bien, c'est les deux. C'est les deux, c'est-à-dire que l'Église, parce que l'Église, c'est pas simplement des hommes, mais c'est l'Église, c'est la présence du Christ au milieu de nous, dans le monde. Lorsque l'autorité légitime dans l'Église appelle quelqu'un aux ordres, eh bien, c'est la marque d'une vocation, d'un appel véritable et vrai, du moment qu'il n'y a pas de tromperie de la part de celui qui est candidat. Et donc, la vocation, c'est à la fois l'appel intérieur. Celui qui pense, qui j'aime pas le mot qui ressent, parce qu'on n'est pas dans l'ordre du senti, mais ou du sentiment, mais celui qui, au bout d'une réflexion prudente, d'un temps de prière, conclut que Dieu l'appelle, sûrement il y a de forts indices et de fortes probabilités, en tout cas de la conclusion raisonnable de sa réflexion, c'est que Dieu l'appelle aux ordres. Mais cette conclusion, elle reste individuelle et interne, tant que l'autorité légitime de l'Église, donc soit un supérieur d'une communauté, soit un évêque dans un diocèse, n'a pas appelé aux ordres. Et d'ailleurs, il y a toujours l'appel décisif, alors ça c'est ce qu'on utilise pour les baptiser, mais dans le sacrement de l'ordre, le sacrement dans le rite traditionnel commence toujours par l'appel de chacun par son nom, et les candidats répondent « Atsum », je suis présent. Atsum. C'est un appel, c'est la formalisation, disons, de l'appel intérieur par l'Église. Alors justement, c'est l'occasion de, puisqu'on dit ensuite qu'il revient à l'autorité de l'Église, de considérer l'aptitude des candidats. Eh bien, exactement, je voulais vous parler de la question de la formation des prêtres et la question de, justement, comment discerner si on a la vocation. Alors, commençons par la question du discernement. Si quelqu'un se pose la question, je pense que tout jeune homme et toute jeune fille catholique doivent se poser la question, tout à fait honnêtement, tout à fait sincèrement, de la vocation, soit au sacerdoce pour les hommes, soit à la vie religieuse pour les hommes et pour les femmes. Qui sont deux vocations distinctes, hein, c'est tout à fait distinct, ce sont deux vocations dans l'Église qui ne sont pas les mêmes. Et puisque certains religieux sont prêtres, bien sûr, mais l'appel à la vie religieuse, c'est un appel à un état supérieur selon les conseils évangéliques qu'on a déjà mentionnés, mais alors que les prêtres, c'est un ministère qui est confié, c'est une tâche qui est confiée dans l'Église, qui exige aussi un certain nombre d'engagements, y compris le célibat pour le clergé latin, dont on va parler bientôt. Mais Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que le prêtre vit dans le monde, il ne fait pas de vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. De même, l'obéissance, c'est-à-dire que moi j'obéis à mon supérieur, dans le but d'organiser que notre communauté soit ordonnée et que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Mais une fois qu'on m'a confié une mission, je suis libre d'organiser la mission comme je le souhaite, encore une fois dans l'ordre et l'obéissance pour que les choses se passent bien. Mais alors qu'un religieux qui a fait un vœu d'obéissance, eh bien il ne peut rien faire, il peut pas décider de sortir s'acheter quelque chose de ceci ou cela en fonction, sans avoir demandé l'autorisation explicite à son supérieur. Alors ensuite, il y a différents degrés d'interprétation de ses vœux selon si on est un religieux cloîtré ou si on est un religieux dans le monde qui est ce qu'on appelle missionnaire quoi ou apostolique. Mais il y a toujours ce vœu. Alors quant à la chasteté, eh bien les religieux font un vœu de chasteté explicite, alors que les prêtres sont tenus à la chasteté évidemment, mais en fonction de leur état. C'est-à-dire que c'est parce que le prêtre fait un vœu de célibat qu'il est tenu à la chasteté d'un homme célibataire. Il n'y a pas un vœu supplémentaire qui consacre cette chasteté à Dieu et qui en fait une source de mérite supplémentaire. Donc, comment savoir comment distinguer sa vocation? Premièrement, il faut examiner intérieurement. Est-ce que Dieu m'appelle? Et je pense que le premier critère pour discerner, c'est le goût que l'on peut avoir. Celui qui ou celle, la fille qui dit, moi, j'ai aucune envie de devenir religieuse. C'est un truc, ça m'horripile parce que je veux absolument fonder une famille. Ça me semble être un signe clair qu'elle n'a pas la vocation. Voilà. Ensuite, que je sois clair, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne veut pas fonder de famille. Si on ne veut pas fonder de famille et qu'on est, on a de la répulsion envers, soit envers le sexe opposé, soit envers le fait de s'occuper d'enfants et d'avoir une paternité, c'est plutôt même un indice assez négatif pour la vocation. C'est surtout la vocation sacerdotale. Ce qui est sûr, c'est qu'un prêtre doit être capable d'interagir avec des femmes, avec des enfants, avec des jeunes. Donc quelqu'un qui serait complètement misogyne, ce serait un péché, mais quelqu'un qui serait, comment dire, misanthrope, qui aurait peur des hommes, bien sûr, ne pourrait pas être prêtre non plus, parce que ce serait un signe d'une faiblesse d'âme, de caractère, d'une blessure, quel que soit le motif, mais ce serait un obstacle pour devenir prêtre. Mais, en tout cas, le goût, l'attrait pour la vie sacerdotale, pour la liturgie, c'est évidemment le premier indice que on a peut-être la vocation. Ensuite, il faut d'abord présenter ça dans la prière et demander à Dieu d'être éclairé, demander que le Saint-Esprit vous éclaire sur votre vocation, sur comment le faire. Et puis ensuite, il faut, comme toujours dans la vie, pour savoir ce que Dieu attend de nous, pour connaître la volonté de Dieu, il ne faut pas attendre une révélation, il ne faut pas attendre de voir la Sainte Vierge ou l'archange Saint-Michel. Si quelqu'un vient me voir en me disant « J'ai vu la Sainte Vierge qui m'a dit que je devais devenir prêtre », je lui dirais « Oulala, déjà, redescendez sur terre, et puis dites à la Sainte Vierge de me prévenir moi-même, comme ça, de prévenir le supérieur du séminaire, ce sera plus simple. » Mais, il faut utiliser moyens naturels, humains, à savoir visiter des maisons religieuses, rencontrer des prêtres, rencontrer des formateurs, et puis se présenter en disant je me pose cette question, je suis intéressé par la vie sacerdotale et pouvoir utiliser des moyens concrets, humains, parce que la volonté de Dieu nous parvient toujours à travers les événements de la vie, les rencontres et ceux qui ont l'autorité de façon naturelle, soit nos parents, soit un directeur spirituel, soit un directeur de séminaire. Et donc, il revient à l'autorité de l'Église de considérer l'aptitude des candidats. Donc, c'est ce qui se passe. Le conseil du séminaire décide, se réunit chaque année et appelle aux ordres, répond à l'appel aux ordres, parce que c'est toujours une demande d'ordre, et répond favorablement ou non à celui qui demande les ordres. D'ailleurs, dans les séminaires traditionnels, il y a les ordres mineurs. Chaque année, on reçoit les ordres mineurs qui sont comme des étapes, je pense que j'en ai déjà parlé, comme des étapes vers le sacerdoce. Donc, D'abord, on devient clerc par la tonsure. Ensuite, il y a quatre ordres mineurs. Donc, on est d'abord portier, puis lecteur, puis exorciste, puis acolyte. Et ensuite, sous-diaconat, diaconat et sacerdoce. Et donc, à chaque fois, il faut faire la demande explicite à son supérieur, à celui qui nous appelle aux ordres, en justifiant qu'on a pris conseil auprès de son directeur spirituel, qu'on a réfléchi à la question, etc. Et que c'est le fruit d'une décision prudente. Pour que personne ne puisse dire, j'ai été forcé, on m'a pas vraiment demandé mon avis, je suis rentré dans cette formation et puis je voulais partir, j'ai pas eu le courage. Non, chaque année, en fait, le candidat fait la demande explicite, afin d'avancer dans les degrés du sacerdoce. Alors, on en vient maintenant à la question, le célibat est-il requis de celui qui reçoit le sacrement? Alors, le célibat est toujours requis pour l'épiscopat. Ça, c'est un principe de toute l'Église catholique. Le célibat est toujours requis pour l'épiscopat. Pour le presbytérat, donc pour être prêtre, dans l'Église latine, sont choisis de manière ordinaire des hommes croyants qui vivent dans le célibat et qui veulent le garder à cause du royaume des cieux. Dans les églises orientales, on n'accepte pas le mariage après l'ordination. Mais des hommes déjà mariés peuvent eux aussi accéder au diaconat permanent. Donc, pour que les choses soient claires, parce qu'on entend souvent beaucoup de bêtises sur cette question, donc, pour être évêque dans l'église catholique, quel que soit le rite, il faut toujours être célibataire. Ensuite, dans l'église catholique, il existe dans les églises orientales des traditions selon lesquelles des hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Ce qui n'est pas le cas dans l'Église latine, de façon générale, parce qu'il peut exister des exceptions, comme par exemple des hommes mariés qui auraient été ordonnés prêtres dans une Église hérétique ou schismatique, et qui seraient revenus vers l'Église catholique, comme des luthériens ou des anglicans. Il y a eu des cas dans les années passées, des anglicans, donc des gens mariés qui ont été ordonnés prêtres, et qui se convertissent à la foi catholique. Alors, ils doivent être ordonnés prêtres, puisque l'Église catholique considère que les prêtres, l'ordination des anglicans n'est pas valide. Mais comme ils sont déjà mariés, eh bien, c'est une exception. Ils sont des prêtres de l'Église latine, mais qui sont mariés. En revanche, jamais, ni dans l'Église latine, ni dans les Églises orientales, un homme qui s'est engagé dans le sacerdoce, étant célibataire, ne peut se marier. Donc le mariage des prêtres, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. C'est une bêtise. Le mariage des prêtres, c'est complètement absurde. Le fait, en revanche, l'ordination d'hommes mariés, ça a déjà existé. Ça existe de fait dans les églises orientales catholiques et ça, il y a quelques exceptions. Ensuite, pourquoi est-ce que ce n'est pas la loi générale et pourquoi il est très important de comprendre le sens du célibat? Parce que pour les prêtres, c'est que le prêtre qui vit son célibat et s'engage dans le sacerdoce à cause du royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est pour une plus grande disponibilité, pour un plus grand don de soi, une plus grande totalité du don de soi, radicalité du don de soi dans le sacerdoce. Alors, je rentre pas dans les faux arguments complètement absurdes en disant oui, les crimes de pédophilie n'existeraient pas dans l'Église si les prêtres étaient mariés. Non seulement absurde, mais en plus horrible. Enfin, je veux dire, c'est complètement inhumain, quoi, parce que comme si les gens qui avaient vraiment des problèmes de pédophilie, en fait, s'ils étaient mariés, en fait, c'est une vision de la femme et de la sexualité conjugale qui est complètement délirante. Et puis, et de fait, il y a beaucoup, la majorité des cas de pédophilie viennent de la part d'hommes mariés. Donc ça n'a absolument aucun sens, c'est un argument qui est vraiment contre l'Église, dirigé contre l'Église directement, et auquel il ne faut donner aucune place. J'ajoute d'ailleurs que même dans les églises orientales où existent, comme je viens de le dire, des prêtres qui sont mariés, enfin des hommes mariés qui sont ordonnés prêtres, eh bien ça fait toujours une distinction. C'est-à-dire qu'en fait, le prêtre, du coup, c'est son métier, mais le soir, il rentre chez lui, il doit s'occuper de sa femme, ses enfants, etc. Donc il n'est pas vu par les fidèles comme de la même façon qu'un prêtre. D'ailleurs, je suis allé chez les Coptes en Égypte, je suis allé en Roumanie, je suis allé dans plusieurs pays de l'Est, et tout le monde fait le même constat, tout le monde le dit, c'est-à-dire que la direction spirituelle, ou ceux qu'ils ont vraiment considérés comme vraiment, comment dire, des images vivantes du Christ, ce sont les religieux, parce qu'il y a aussi des moines qui sont célibataires. Donc, quand on a un problème, ou quand on choisit un évêque, on choisit toujours parmi les moines, parmi ceux qui ont donné toute leur vie totalement, et qui ont y compris renoncé à fonder une famille et à la sexualité conjugale, pour se donner totalement, corps et âme, à la vie sacerdotale. quels sont les effets du sacrement de l'ordre? Ce sacrement donne une effusion particulière de l'Esprit-Saint qui configure l'ordinant au Christ dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi, selon les degrés respectifs du sacrement. L'ordination confère un caractère spirituel indélébile, c'est pourquoi il ne peut être répété ni conféré pour un temps limité. Avec quelle autorité est exercé le sacerdoce ministériel? Dans l'exercice de leur ministère sacré, les prêtres ordonnés parlent et agissent, non pas en vertu d'une autorité propre, ni même par mandat ou délégation de la communauté, mais dans la personne du Christ, tête et au nom de l'Église. De ce fait, le sacerdoce ministériel se différencie radicalement, et pas seulement par une différence de degré, du sacerdoce commun des fidèles, au service duquel le Christ l'a institué. Voilà. Donc il y a une différence, mais bien sûr, quand tout baptisé est d'une certaine façon, participe d'une certaine façon au sacerdoce du Christ, mais il y a non pas simplement une différence de degré entre le fidèle et le prêtre, mais une différence radicale, une différence essentielle entre celui qui a reçu le sacerdoce, parce qu'il peut faire des choses que le fidèle, par son baptême, ne peut pas faire. Et donc cette distinction, elle a été gommée de plus en plus par le protestantisme, qui refuse le sacrement du sacerdoce, mais il est très important de bien conserver dans l'Église catholique cette distinction du rôle de chacun. Alors comme toujours, prions l'Esprit-Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.